Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis une semaine déjà, la France a entamé son troisième mois sans tabac. Prévention, motivation, soutien, défi collectif pour inciter le plus grand nombre de fumeurs à renoncer à cette dépendance particulièrement néfaste pour la santé. Alors comment un événement comme celui-ci peut-il effectivement déboucher sur l'abandon durable, voire définitif, de cette habitude toxique ? Comment aider les fumeurs à renoncer à leur dose quotidienne de tabac fumé, chiqué, prisé ? La cigarette continue de faire des ravages, elle provoque 7 millions de décès chaque année sur la planète et comme l'OMS le souligne, la cigarette tue la moitié de ceux et celles qui en consomment. Alors en matière de lutte contre le tabac, il y a des signes encourageants comme ce million de fumeurs de moins recensés en France pour 2016-2017. Mais d'autres constats, eux, restent très alarmants. Comme par exemple le fait qu'en France, les femmes sont particulièrement touchées par le tabagisme, plus nombreuses à fumer, ce qui les rapproche aujourd'hui de la proportion de fumeurs au masculin. Des femmes vulnérables à 3 pathologies mortelles liées au tabac, le cancer du poumon, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, ou l'infarctus du myocarde. Alors pour conséquence, en l'espace de 15 ans, le nombre de décès attribuables au tabac multiplié par 2 chez les femmes. Mois sans tabac, prévention du tabagisme. Aussi conseil pour décrocher avec nous en studio, docteur Marion Adler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart en région parisienne, membre du comité scientifique et du conseil d'administration de la Société francophone de tabacologie. Avec nous également autour de cette table, Viet Nguyen Tan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité addiction à Santé publique France. Et puis tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Niamey, Inoussa Saoussa, président de SOS Tabagisme Niger. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, on attend vos appels, vos messages, 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marion Adler, j'ai cité tout à l'heure, à l'instant, ces chiffres du tabagisme féminin en France. Est-ce qu'on peut dire que le tabac va agir différemment selon les individus, selon les genres ? Est-ce qu'il y a des vulnérabilités spécifiques ?
Écoutez, ce qui est clair, c'est que le tabac est à 100% toxique. Et en fonction de nos propres gènes et de ce que nous allons avoir comme gènes spécifiques, familiales, nous avons des vulnérabilités aux maladies. Donc quand je fume, je ne sais pas si je vais développer un cancer du poumon, un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Donc c'est pour ça que c'est important d'arrêter de fumer, parce que chacun, et on ne sait pas à quel degré, est vulnérable différemment.
Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que le tabac fragilise ou que le tabac rend malade ?
On peut dire que le tabac crée les maladies et est source des maladies et de beaucoup de pathologies dans tous les domaines, que ce soit cancer, respiratoire, cardiovasculaire.
Avec aussi, je vais le souligner tout de suite parce que c'est une question que nous posent souvent nos auditeurs, docteur Marion Adler, aussi des problèmes sur le plan sexuel.
Bien sûr, c'est une diminution de la fertilité et aussi de la possibilité d'avoir une relation sexuelle satisfaisante, parce que le tabac encrasse et diminue l'oxygénation. Et dans ces cas-là, il y a souvent des problèmes de fertilité. On conseille dans les bons centres de procréation médicalement assistée à l'homme et à la femme d'arrêter de fumer pour favoriser d'avoir un bébé.
Alors, ces chiffres sur ces femmes de plus en plus victimes du tabac s'appuient sur les données publiées par Santé publique France, le bulletin épidémiologique hebdomadaire. On constate, Viet Nguyen Tan, que pour la tranche d'âge des femmes 45-54 ans, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un mieux au niveau global, et bien pour cette tranche spécifique, le tabagisme n'a pas régressé. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Pourquoi ces femmes, on va dire ces femmes déjà avancées dans leur vie, je parle pas en connaissance de cause, et bien pourquoi elles continuent à fumer ?
Alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, entre 2016 et 2017, on a constaté une baisse du tabagisme, environ 1 million de fumeurs en moins d'après les données du baromètre santé de Santé publique France. Mais cette baisse, en fait, elle n'a pas été forcément homogène entre les sexes, entre les hommes et les femmes, et elle n'a pas non plus été homogène selon les tranches d'âge. Et chez les femmes en particulier, particulier, on a observé une baisse du tabagisme chez les jeunes femmes, et c'est le cas depuis plusieurs années, hein, c'est pas la première fois qu'on le remarque dans les enquêtes. Par contre, effectivement, auprès de la tranche d'âge des 45-54 ans, on a constaté plutôt une hausse du tabagisme, on est autour de 30% de fumeuses dans cette tranche d'âge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 70, le tabagisme globalement a diminué en France, parmi les hommes, mais parmi les femmes, entre les années 70 et 90, en fait, il a augmenté. Donc aujourd'hui, les jeunes femmes qui avaient 20 ans au début des années 90 et qui ont commencé à fumer ont entre 45 et 50 ans. Elles fument toujours, certaines d'entre elles malheureusement n'ont pas réussi à arrêter de fumer et donc on observe un effet de génération. Cette génération-là de fumeuses qui ont commencé à fumer dans les années 90 fument toujours aujourd'hui et donc c'est très important de les encourager à arrêter de fumer dans la mesure où effectivement elles sont victimes de nombreuses pathologies en lien avec leur tabagisme et on espère que dans le cadre en particulier de Mois sans tabac, effectivement, elles vont s'engager, mais comme les autres fumeurs, dans une tentative d'arrêt du tabac au mois de novembre.
Alors, ce mois sans tabac, c'est le troisième du nom. Ça passe par les réseaux sociaux très largement pour s'inscrire notamment. Un site, une application, une ligne téléphonique et puis aussi un message télévisé.
Jeudi 1er novembre, premier jour sans cigarette. Vous avez été fort, déterminé comme jamais. Bien sûr, la cigarette vous a manqué. Celle du matin, celle d'après le déj, celle de on se met en terrasse. Mais vous avez tenu bon, tu vois.
C'est pas si compliqué.
Et puis, ça a été un peu compliqué. Alors, pour penser à autre chose, vous avez transpiré. Mais aujourd'hui, vous avez surtout appris une chose. Votre envie de cigarette s'arrête après 3 minutes. Le mois sans tabac revient en novembre. Inscrivez-vous sur tabacinfoservice.fr.
Alors, troisième édition, Viet Nguyen Tan, qu'est-ce que les autorités sanitaires françaises ont envie de mettre en avant en particulier ?
Alors, pour cette troisième édition de Mois sans tabac, Santé publique France a souhaité mettre en avant en particulier la préparation à l'arrêt du tabac. C'est vraiment très important et le docteur Marion Adler, je pense, pourra aussi rebondir là-dessus. On a constaté dans les éditions précédentes de Mois sans tabac, puisque vous le savez, on fait des études après chaque édition pour voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. On a constaté que les fumeurs qui ont fait une tentative d'arrêt du tabac dans le cadre de Mois sans tabac nous disaient « Je ne me suis pas assez préparée finalement et au mois de novembre, je me suis trouvée en difficulté début novembre en sevrage tabagique avec des symptômes de sevrage, etc. » Donc cette année, on a souhaité vraiment mettre l'accent sur la préparation. C'est pour ça qu'on a diffusé donc en octobre une campagne télévisée. Donc vous avez diffusé un spot ici qui était comme un espèce de carnet de bord du futur dans lequel le futur ex-fumeur pouvait se projeter dans son futur arrêt du tabac au mois de novembre et donc se préparer à toutes les difficultés mais aussi à toutes les petites joies qui allaient accompagner son arrêt du tabac.
Justement, anticiper ces contre-coups, docteur Marion Adler, certains quand ils vont s'arrêter de fumer disent « j'ai peur de déprimer, j'ai peur de stresser, j'ai peur de grossir », qu'est-ce qu'on peut leur répondre ?
Alors c'est très clair, la dépression, l'anxiété, le stress, les fringales qui peuvent provoquer la prise de poids, c'est vraiment le manque de nicotine. Et ça, il faut le comprendre. Et nous avons des traitements disponibles et ces traitements peuvent être une très très bonne aide. En plus, en France, on a cette chance, c'est que maintenant les traitements sont complètement remboursés. Il y a des traitements médicamenteux aussi qui sont un bon accompagnement et qui sont aussi remboursés. On a cette chance-là en France, hein. Je sais que c'est pas partout pareil, bien sûr, mais ces traitements sont un bon support. Parce que si je prends suffisamment de nicotine, encore une fois, la nicotine, c'est pas dangereux, je vais pouvoir être aidée pour ne pas avoir cette souffrance. Ça peut être la cigarette électronique aussi, mais avec la nicotine qui peut m'aider à ne pas avoir cette souffrance. Et c'est très très important. Dans toute maladie chronique, on a le droit d'avoir des traitements. Quand j'ai une fracture de jambe, je prends des béquilles, je prends un plâtre et je n'ai pas honte de le faire. Pourquoi faudrait-il arrêter de fumer en souffrance alors qu'on peut très bien le faire sans souffrance ?
Ce message, c'est bien, Marion Adler, docteur Adler, que les fumeurs sont des malades.
Exactement, c'est une maladie chronique. On n'est pas coupable de fumer, on est victime d'une maladie chronique et c'est important de le dire parce que ça déculpabilise aussi. Moi, je le dis à mes patients. Et guérir d'une maladie chronique, ça peut prendre un certain temps, mais ce qu'il faut, c'est savoir que c'est un réapprentissage et je vais me préparer, comme disait Viet, c'est très important, je vais me préparer à ce moment d'arrêt du tabac en faisant un réapprentissage de la vie sans tabac. Et je peux très bien, par exemple, fumer avec des patchs. Je peux mettre des patchs, prendre des pastilles en plus pour m'aider ou des gommes pour m'aider à calmer les envies urgentes de fumer. Mais si vraiment je craque pour des cigarettes au début de mon sevrage, c'est pas grave.
On n'arrête pas tout.
On peut très bien le faire au fur et à mesure, à son rythme. Il y a des gens qui préfèrent, et c'est plus facile pour eux, le faire du jour au lendemain. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de quelques jours, quelques semaines pour être complètement à zéro cigarette. Et puis, il faut toujours se dire, j'essaye aujourd'hui, on verra bien demain. Et comme ça, j'y vais au fur et à mesure. Et là, c'est une victoire et chaque jour est une victoire. Surtout quand je ressens que je respire mieux, que je garde mon argent pour moi, que finalement, j'ai beaucoup plus d'endurance, que sexuellement, ça va mieux. C'est quand même des points très positifs.
Ça motive. Et justement, on va le voir avec les auditeurs de Priorité Santé qui ont été nombreux à nous appeler justement pour vous poser des questions. Comment arrêter, voire comment ça s'est passé quand j'ai arrêté. Pour certains, ça se passe très bien. On va tout de suite les prendre en ligne, Dr Marion Adler et Viet Nguyen Tan.
Priorité santé sur RFI.
Avec un premier auditeur de Côte d'Ivoire, de Ferke Dougou. Ferke, c'est Dougou, là je l'ai dit bien. C'est Brahima qui est en ligne avec nous. Bonjour Brahima.
Oui, bonjour messieurs et dames.
Bonjour.
Je m'appelle Garasla Brahima.
Oui, très bien. On vous écoute Brahima.
Oui, je suis Garasla Brahima de Ferke Dougou.
Oui.
J'ai 35 ans, mais ça fait bientôt 12 ans que je suis. Je fume à peu près un demi paquet de cigarettes par jour. Donc, durant tout ce temps, j'ai eu à tenter deux fois d'arrêter, mais au bout de quelques temps, je retombe dedans. Et ce qui me fatigue le plus cher, c'est quand je finis de manger. Donc, j'aimerais savoir quelle est la relation entre la cigarette et la nourriture.
Vous avez davantage faim quand vous arrêtez de fumer. Vous avez eu un problème de prise de poids, Brahima?
Oh non, bon, la première fois, c'était suite à une maladie, j'avais eu tout. J'ai eu arrêté un mois après, je suis retombé dedans.
Oui.
Bon, la deuxième fois, c'était sur le conseil d'un tuteur.
Alors, docteur Marion Adler, cette question que pose Brahima sur pourquoi quand j'arrête de fumer, pourquoi j'ai davantage faim?
Mais écoutez, voilà, ça fait partie des signes de manque de nicotine. Ce sont les fringales. Et les fringales, on va compenser finalement, parce qu'on a envie de fumer, on va compenser avec de l'alimentation, peuvent faire prendre du poids. Alors, deux choses à faire pour ne pas prendre du poids quand on arrête de fumer. D'abord, avoir sa dose de nicotine suffisante. Il ne faut pas hésiter à augmenter les doses si c'est pas suffisant. D'ailleurs, je vais prendre un patch. Ça ne me suffit pas, bien sûr, je vais commencer à associer des gommes, des pastilles, l'inhaleur, le spray buccal. Et si ça ne suffit pas, je peux passer à deux patchs. Ça, déjà, c'est très important. Ensuite, la deuxième chose, ce qui est très important aussi, c'est de se bouger un peu plus et d'apprécier le fait de faire un peu plus d'exercice physique. Je parle pas de sport spécialement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport, mais ça peut être marcher vite, ça peut être faire du vélo, ça peut être danser. Et ce qui est important, c'est de se dépenser des calories. Parce que quand on arrête de fumer, on gagne un peu de calories. Du coup, si on se dépense physiquement, on ne va pas prendre de poids. Et ça, c'est important. Et en plus, on va avoir l'endurance qu'il faut parce que on récupère 24 heures après. Le bénéfice à l'arrêt du tabac, c'est 24 heures après parce que le monoxyde de carbone s'élimine 24 heures après. Ce gaz qui est dans la fumée de cigarette s'élimine 24 heures après. Donc, je vais être oxygéné normalement parce que le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène en 24 heures. Et du coup, je vais pouvoir apprécier le fait d'avoir plus d'endurance et je vais avoir encore plus envie de danser.
Alors, arrêter une mauvaise habitude et prendre de bonnes habitudes, c'est ce qu'on a compris. Merci à vous, Brahima, pour cet appel de Côte d'Ivoire. On va partir tout de suite pour le Tchad, où l'on retrouve Ahmed, qui est en ligne de N'Djamena. Bonjour, Ahmed.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Ahmed.
Ok, moi, je fume depuis 2004. Et que depuis 5 ans comme ça, j'ai essayé d'arrêter. Mais quand même, dans cette période, j'ai essayé pour un mois et que j'ai pas pu, j'ai repris encore. Je fume presque 10 bâtons par jour. Mais arrêter, c'est devenu vraiment un calvaire. Donc, c'était très difficile. À chaque fois, quand je prends une décision, je peux pas la respecter.
Et quand vous avez arrêté, vous vous êtes fait aider? Vous avez pris des substituts de nicotine, ces petites gommes que l'on peut mâcher, qui nous donnent chaque jour la dose?
Bon, j'ai entendu parler, mais quand même, je n'ai pas essayé une fois. Mais j'ai arrêté seulement une décision à sec comme ça. Je me réveille un bon matin, je dis que bon, aujourd'hui, je ne peux pas fumer. Donc, je résiste pendant un mois.
Une question concrète, Ahmed. Est-ce que vous auriez les moyens de vous les payer, ces pastilles à la nicotine?
Bon, si, j'en ai le moyen. Parce que ici, même dans les pharmacies et puis tout ça, il y en a, je pouvais les acheter.
Alors, docteur Marion Adler, je pressens ce que vous allez dire à Ahmed.
Ben oui. Ahmed, vraiment, je pense que c'est très important. Vous avez à portée de main des traitements et vous avez la chance de les avoir au Tchad. Et vous pouvez du coup aller les chercher en pharmacie et avoir les traitements suffisants pour pouvoir ne pas souffrir à votre prochain arrêt du tabac. Déjà, je voulais vous encourager, vous avez déjà tenté d'arrêter de fumer. Ça veut dire que vous êtes encore plus à même d'arrêter définitivement parce que plus on fait des essais, finalement, plus on y arrive. Donc c'est important de savoir, vous pouvez avoir les traitements au Tchad si vous les avez. C'est quelque chose d'important.
Docteur Marion Adler, moi je voudrais que vous témoigniez de vos consultations. Qu'est-ce que disent les gens vraiment quand j'ai pris ces pastilles, ça m'a changé la vie? Ils le disent comme
Alors,
ça?
Ils me disent, mais c'est incroyable. Voilà. Si j'avais su qu'en mettant des patchs et prenant des pastilles ou des chewing-gums, c'était aussi facile, je l'aurais fait depuis longtemps. Et je pense que c'est important de dire ça.
Mais il y a encore une retenue, c'est comme si les gens voulaient purger leur corps de toute matière liée au tabac. Ils disent, je ne veux plus de goudron, je veux plus cette fumée, je veux plus la nicotine, je veux être pur. Et vous leur dites, ce n'est pas la bonne solution.
Alors, parce qu'ils ne comprennent pas que ce qui est vraiment toxique, c'est la fumée et non pas la nicotine. Et quand on a été dépendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de cette nicotine, on peut difficilement s'en débarrasser du jour au lendemain sans en souffrir. Donc, on peut très bien la prendre et se débarrasser d'abord de la cigarette. C'est la cigarette qui est toxique. Après, tranquillement, sur les mois qui viennent, on fait une diminution progressive et ça devient facile. Même avec la cigarette électronique, ça peut être une aide qui permet aussi d'arrêter de fumer. Puis je voulais aussi, peut-être qu'on parle de l'unité de sevrage tabagique de l'hôpital Yalgado de Ouédraogo, du professeur Georges Ouédraogo, qui se trouve au Burkina Faso, à Ouagadougou. L'hôpital Yalgado a ouvert une unité de sevrage tabagique et là il y a des gens très compétents qui font de l'accompagnement au sevrage tabagique. Donc si vous avez la chance d'habiter au Burkina Faso, n'hésitez pas à aller les voir et à aller consulter les gens qui travaillent avec le professeur Georges Ouédraogo. Ils font un excellent travail. Et puis il faut aider tous ces pays d'Afrique de l'Ouest et les autres pays à avoir à disposition les traitements et à un prix qui est intéressant. Et ça, c'est un appel plutôt au gouvernement de ces pays. Il faut absolument favoriser, comme on favorise les traitements dans n'importe quelle maladie qui sont importants, ces traitements sont importants pour aider les gens et pour que ce soit beaucoup plus facile et sans la souffrance.
Et tout à l'heure, on aura une illustration avec le cas du Niger. Merci beaucoup, Ahmed, pour cet appel du Tchad. On va partir pour la Guinée, pour Conakry, où l'on retrouve Benoît. Bonjour, Benoît.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Benoît.
Ma question est que depuis j'ai 30 ans, je fume depuis il y a déjà 10 ans quand j'étais au collège avec des amis. Mm-hmm. Mais le pire est qu'avec ces mêmes amis, nous nous engageons, soit même par écrit, afin d'arrêter la cigarette, mais nous ne parvenons plus à le faire. C'est toujours les mêmes cendriers que l'on utilise. On change des fois des ronçons à Marlboro vers Gladstone, mais jamais arrêter la cigarette, même pour une journée.
Mais pourquoi est-ce que vous voulez arrêter en groupe? Vous ne vous sentez pas capable, car quand vous retrouvez ces amis, vous êtes incité à reprendre une cigarette?
Voilà.
C'est
effectivement ça le problème. Individuellement, si on pouvait vivre seul, dans une capitale seule, ça pourrait passer. Mais tout le temps, on est avec des amis et comme ça, on décide alors de les faire dans l'ensemble. Mais on n'a jamais pu.
Docteur Marion Adler, arrêtez ensemble. Docteur Marion Adler, ce qu'on entend avec Benoît, c'est que fumer, c'est aussi une pratique sociale. Hein. On est appelé par le groupe, on est appelé aussi par imitation, par attirance pour être comme les autres, et aussi parce que ça fait envie quand on sent une cigarette, quand on est fumeur, on est appelé à fumer, tout oui, simplement.
Absolument, parce que c'est une drogue extrêmement puissante. Et c'est là où c'est intéressant, ce que propose Santé publique France, c'est d'arrêter en groupe au mois de novembre. Et je pense que ça, c'est un point important. Parce que justement, ce que fait Benoît, et vous avez raison, Benoît, c'est d'arrêter avec des amis, pour permettre justement avec ses amis avec qui on fume, de peut-être s'encourager.
Et d'échanger.
Et voilà, d'échanger, et puis peut-être de faire un peu de sport ensemble pour pouvoir retrouver l'endurance physique. Et puis surtout, n'hésitez pas, Benoît, à vous faire aider si vous avez besoin, à aller... Il y a des choses très simples à savoir si on ne connaît pas bien les traitements. Un patch, ça correspond à peu près à un paquet par jour. Si on fume entre 15 et 20 cigarettes par jour, le gros patch va permettre d'être aidé pour calmer l'envie de fumer. Les gommes et les pastilles, ça va être l'urgence à fumer. J'ai quand même envie de fumer malgré mon patch, alors je mets un patch et tout d'un coup j'ai quand même envie parce que je viens de manger par exemple, et ben là je prends une pastille ou une gomme, c'est l'urgence à fumer. Et encore une fois, faites-le à votre rythme, mais faites-le ensemble, encouragez-vous et c'est une très bonne idée de le faire en groupe. Et puis commencez à faire ensemble peut-être des activités physiques et sportives, et puis faites-vous plaisir en écoutant de la musique. Il faut se faire plaisir autrement quand on arrête de fumer. Parce que le cerveau va comprendre au fur et à mesure qu'on peut se faire plaisir autrement qu'en prenant cette substance drogue.
Bah peut-être Benoît a acheté en groupe un paquet de substituts, un paquet de gommes. Puis quand vous vous retrouvez, vous écoutez de la musique et vous partagez les gommes entre vous au lieu de vous partager les cigarettes. Peut-être que c'est la solution. Voilà. Est-ce que vous avez déjà essayé ces gommes, Benoît, justement, ces substituts de nicotine?
Bon, j'ai essayé avec les chewing-gums, les bonbons mint.
Ouais, et ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché.
Certainement, c'est le sport qui va m'aider parce qu'actuellement, je fais le sport tous les temps.
Vous parlez de chewing-gum, mais c'était des chewing-gums à la menthe ou des chewing-gums qui contiennent de la nicotine?
Non, c'est des chewing-gums locaux. C'est des chewing-gums qui contiennent du sucre.
Oui, donc ça marche pas. On peut pas remplacer de la nicotine par du sucre. C'est bien pour ça que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il y a des substituts dédiés. Des substituts, c'est comme un médicament, on va le dire, et qui permettent de s'arrêter plus facilement. Peut-être qu'il faut que vous tourniez vers ce genre de substance plutôt que vous tourniez tout simplement vers des bonbons.
D'accord.
Et puis ces chewing-gums à la nicotine, maintenant, ils ont le goût de chewing-gums normaux. Hein, ils sont à la menthe ou aux fruits, donc c'est plutôt beaucoup plus agréable. Ce n'est pas désagréable, il faut les mâcher un petit peu, puis laisser contre l'ajout diffuser la nicotine. Et en 3-4 minutes, on ressent l'apaisement de l'envie de fumer. Et puis, Benoît peut alterner aussi avec des chewing-gums normaux, à faire du sport aussi, bien sûr. Et bien sûr, ajouter un patch si ça ne suffit pas, sans aucun problème.
Voilà, on peut faire beaucoup de choses en même temps. En tout cas, quand on est motivé, ça peut vraiment aider. Très bonne journée, Benoît, à Conakry. On va partir pour la République démocratique du Congo, pour Kinshasa, où l'on retrouve une auditrice. Cette auditrice, c'est Flamine. Bonjour, Flamine.
Bonjour.
Bonjour, Flamine. On vous écoute, hein, votre témoignage.
Bon, moi, mon mari fume depuis des années. Mmh. Il a essayé avec la cigarette électronique et rien n'a marché. Donc, il peut fumer jusqu'à 10 cigarettes à la journée. Et des fois, ça me dérange. Et j'aimerais savoir comment faire pour qu'il arrête de fumer. Et lui aussi, il veut arrêter. Il a cette envie d'arrêter de fumer, mais ça ne marche pas.
Flamine, est-ce que votre mari a essayé justement les gommes ou les patchs à la nicotine pour réussir cet arrêt de la cigarette?
Bon, il a essayé juste la cigarette électronique. Et puis il y avait aussi des comprimés qui sa nièce lui avait amené de l'Europe et ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à fumer. Et moi, ça me dérange vraiment. Ça me dérange.
Docteur Mario Adler, oui. C'est important aussi ce que pense l'entourage quand il y a un fumeur à la maison.
Bien sûr. Alors, Flamine a tout à fait raison. Elle veut encourager, aider son mari. En plus, évidemment, quand il fume à côté d'elle, elle est victime du tabagisme passif, donc elle respire cette fumée qui n'est pas agréable, bien sûr. Mais c'est important parce qu'elle veut l'aider. Et c'est extrêmement essentiel. Quand vous dites que votre mari, Flamine, a essayé avec la cigarette électronique, est-ce qu'il avait de la nicotine dans sa cigarette électronique?
On a perdu Flamine, nous répondre tout de suite à cette question.
C'est que parfois, la cigarette électronique peut être une aide. C'est une aide qui peut être vraiment très efficace pour certaines personnes si elles prennent la bonne dose de nicotine.
C'est comme tout à l'heure avec les chewing-gums. Un chewing-gum au sucre, ça ne remplace pas la nicotine, pas plus qu'une cigarette goût caramel.
Tout à fait. Voilà. Alors la cigarette électronique, ça doit être le goût déjà qui vous plaît. Et en plus, il faut trouver la dose de nicotine qui vous permette très rapidement d'être soulagé et de ne pas avoir envie de fumer. Et puis en plus, moi souvent, ce que je propose à mes patients, c'est d'associer les traitements validés. Avec ça, on peut très bien mettre un patch, prendre la cigarette électronique, prendre une pastille. Si les comprimés dont parlait Flamine sont des comprimés d'aide à l'arrêt du tabac, ça peut être le Champix. Le Champix, c'est un médicament aussi, qui marche très bien dans l'arrêt du tabac. C'est un comprimé le matin et un comprimé le soir. C'est un traitement qui va agir plutôt au bout d'une semaine. Et c'est un médicament qui, maintenant en France, on a de la chance, est complètement remboursé. Alors ça peut être une aide aussi qui peut être très efficace. Après, ça dépend de chacun. Et chacun va devoir avoir le traitement qui lui est adapté et qui lui convient.
Donc Flamine, si elle nous écoute toujours à Kinshasa, en FM bien sûr. Flamine, vous êtes là, donc on peut vous reposer cette question. Votre mari, cette cigarette électronique, il y avait de la nicotine dans le produit consommé par la cigarette?
Non, on avait écrit qu'il n'y avait pas la nicotine.
D'accord, donc c'était juste une fumée comme ça.
Voilà,
donc ça explique aussi peut-être cet échec. Donc vraiment se tourner vers ce que l'on appelle des substituts, des produits de remplacement qui contiennent de la nicotine, parce que c'est un principe actif.
Et vraiment, on voit chez le mari de Flamine qu'il a très envie aussi d'arrêter, donc il est très dépendant. Plus on est dépendant de la nicotine, plus on est dépendant de la cigarette, plus les traitements vont marcher, plus la cigarette électronique avec de la nicotine va marcher, mais sans nicotine ne va pas marcher, bien sûr.
Voilà, très bonne journée à vous à Kinshasa, Flamine. On va partir pour la Guinée. On retrouve Conakry avec Alpha en ligne. Bonjour Alpha.
Bonjour.
On vous écoute Alpha.
Ok, merci. Moi, j'ai commencé à fumer en 2000 et après quelques années, j'ai essayé d'abandonner. Du coup, je réduisais le nombre de cigarettes que je prenais par jour. Et malgré cette diminution, je n'arrivais pas à arrêter. Et en décembre 2014, lors d'une soirée avec mes amis, j'ai pris une décision ferme, celle d'abandonner complètement. J'avoue que le premier mois était dur et le fait que mes amis disaient que j'allais pas pouvoir tenir m'a beaucoup encouragé. Même aider à abandonner. Dieu merci, aujourd'hui ça va. Donc du coup, c'est juste vous dire que la meilleure manière d'abandonner la cigarette, c'est de prendre une décision.
Et aussi des fois de se faire aider par d'autres moyens. En tout cas, j'aimerais que vous m'expliquiez, Alpha, ce que vous avez ressenti quand vous avez arrêté. Comment se manifestait ce manque?
Bon, il y avait l'envie. L'envie était là. J'avais envie vraiment, à chaque fois que je mange, à chaque fois que je finis de manger quelque chose, j'ai envie de finir. Mais bon, j'ai pris une décision, comme je ne voulais pas revenir à ça, j'ai pris une décision et ça, pour le premier mois, ça a été vraiment, vraiment dur, très dur. Mais bon, après ça, j'ai continué. Et depuis ça, bon, je me sens à l'aise. Je faisais le sport et puis depuis ça, je me sens à l'aise maintenant. Je suis tranquille.
Et votre état d'esprit, Alpha, est-ce qu'on peut dire que quand on a réussi, vous avez le sentiment d'avoir réussi, est-ce qu'on est fier, est-ce qu'on le dit aux autres?
Oui, bien sûr, je suis fier et à chaque fois je change avec des amis qui fument, je les explique comment moi j'ai pu faire et là, directement, certains arrivent même à suivre le méthode qui est suivi et ils arrivent à arrêter.
Et vous avez envie justement d'inciter les autres à suivre votre exemple?
Oui, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure manière, c'est de prendre parce qu'on a décidé de commencer, il faut avoir une décision encore d'arrêter. À un moment donné, quand tu sais que ça ne va pas, décide-toi et aie le courage de continuer en faisant quelque chose. Par exemple, tu fais le sport et puis tu écoutes de la musique et puis tu essaies d'oublier.
Et on vous dit bravo, hein, docteur Marion Adler.
Oui, vraiment bravo, Alpha. En plus, vous avez compris exactement ce qu'il fallait faire. Ça peut être tout à fait aidant de faire du sport parce que ça stimule le plaisir. D'écouter de la musique, ça stimule le plaisir et ça permet d'oublier le fait qu'on avait besoin de cette cigarette. Et finalement, plus on se fait plaisir, moins on a besoin de la cigarette. Donc c'est une très bonne idée. Ce que vous avez fait, c'est que finalement, vous êtes mieux aidé en ayant arrêté du jour au lendemain. C'est important de partager votre expérience parce que certaines personnes seront aidées de la même manière. D'autres vont avoir besoin d'autres choses. Mais vous, c'est très important. Si vous partagez votre expérience, vous allez motiver des gens. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de calculer tout ce que vous avez économisé jusqu'à maintenant en ne fumant plus. Je pense qu'on peut aussi le souligner.
Oui, ça fait gagner pas mal d'argent qu'on peut mettre de côté pour d'autres projets. Merci beaucoup, Alpha. Excellente journée à vous à Conakry, en Guinée. On poursuit cet échange. Hein, Dr Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, Viet Nguyen Tan, responsable de l'unité addiction à Santé publique France. On peut parler aussi de la législation anti-tabac, Viet Nguyen Tan. Dans certains pays, la France a beaucoup avancé sur ce terrain, c'est certain. Comment on évalue l'impact de ces mesures anti-tabac en matière de santé publique?
Alors c'est une excellente question. En fait, c'est vrai qu'il y a eu en France beaucoup de mesures anti-tabac depuis la loi Evin de 91 jusqu'à l'interdiction de fumer dans les lieux publics en 2007-2008, le paquet neutre en 2017, l'instauration de mois sans tabac avec Santé publique France et tous ses partenaires. Donc il y a eu beaucoup de mesures. Il est extrêmement difficile d'arriver à isoler l'impact de chacune de ces mesures prises séparément. Mais en fait, on est en revanche capable d'estimer l'impact de collectivement de toutes ces mesures prises ensemble de façon intégrée, en mesurant de façon régulière ce qu'on appelle la prévalence du tabagisme, c'est-à-dire finalement tout simplement la proportion de fumeurs en France. Et ça, on le fait grâce à des grandes enquêtes qui s'appellent les baromètres santé, que Santé publique France mène depuis le début des années 90 de façon régulière, tous les 3 à 5 ans. Aujourd'hui, chaque année, on réalise une grande enquête baromètre santé qui nous permet d'interroger un grand échantillon de la population française représentative de la population française. En 2017, le baromètre santé 2017 nous a permis d'interroger 25 000 personnes. Donc ce sont vraiment des très grandes enquêtes qui sont faites de façon extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire que la méthode d'échantillonnage, sans rentrer trop dans les détails techniques, est faite de telle manière à avoir vraiment une population représentative de la population française, ce qui nous permet de mesurer la proportion de fumeurs selon les années, en fait, et donc de voir effectivement, en particulier, que depuis les années 70, le tabagisme a diminué et qu'entre 2016 et 2017, on a perdu 1 million de fumeurs.
Ça veut dire qu'on cible aussi des publics particuliers via Nguyen Tan. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des campagnes, des messages ciblés, je pense, en particulier aux jeunes ?
Alors, il y a des messages qui sont dirigés vers les jeunes. De manière générale, les opérations, par exemple, comme Moi sans tabac, elles s'adressent vraiment à tous les fumeurs français. Dans nos spots publicitaires, on essaye d'inciter tous les fumeurs français à faire une tentative d'arrêt du tabac. Ce n'est pas une campagne qui est spécifiquement ciblée jeunes, ciblée femmes, ciblée pour les hommes, etc. En revanche, on a aussi des dispositifs plus spécifiques qui s'adressent aux jeunes. Ils ne passent pas forcément par la publicité, par la communication. Ce sont aussi plutôt des actions de terrain qui sont faites au plus proche des jeunes pour prévenir l'entrée dans le tabagisme. La littérature internationale montre que ce qui est efficace pour prévenir l'entrée dans le tabagisme, ce sont notamment toutes les actions qui sont menées en partenariat avec l'enseignement, la DGESCO, pour développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales des jeunes et des enfants, ce qui leur permet de résister notamment à la pression des pairs, de développer leur estime de soi et donc ensuite de ne pas entrer dans les consommations à risque.
Ne pas se retrouver dans un groupe où tout le monde fume et être incité par effet de miroir à s'y mettre également.
Exactement.
Comme ça peut arriver aujourd'hui. D'ailleurs, changer l'image avec l'action des cigarettiers, c'est très important. Hier, on va dire, le tabac, ça avait bonne réputation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire cette image sociale, en particulier chez les jeunes, est-ce que cette image a vraiment changé ?
Effectivement, les enquêtes montrent qu'il y a eu une forme de dénormalisation du tabagisme et c'est ce qui était vraiment recherché par tous les acteurs de la lutte anti-tabac, Santé publique France, tous les acteurs, les tabacologues, le ministère de la Santé depuis les années 80. Aujourd'hui, on arrive à des résultats très intéressants auprès des jeunes. Les enquêtes qualitatives, notamment celle de l'OFDT, montrent qu'il y a une forme de dénormalisation, qu'aujourd'hui le tabac est considéré comme un produit qui est cher par les jeunes et qui n'est pas forcément aussi populaire que d'autres produits peuvent l'être. Donc on voit qu'on commence aujourd'hui à observer les fruits de toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre depuis 10, 20 ans, 30 ans en France.
Alors il y a les lois, il y a les campagnes. Docteur Marion Adler, je voulais parler, je vais vous laisser bien sûr la parole, du fameux remboursement des dispositifs de sevrage tabagique. C'est aussi très important sur le plan financier de se faire aider.
Voilà, j'allais rajouter ça en fait. Notre gouvernement et en particulier la ministre de la Santé a vraiment compris que d'une part l'augmentation du prix du tabac était un facteur, comme on le voit dans d'autres pays, nous on a pris l'exemple sur d'autres pays, était un facteur de santé publique qui allait motiver beaucoup de gens. Et je le vois dans mes consultations, beaucoup de gens viennent parce qu'ils n'ont plus envie de payer ce prix-là. Et je pense que les pays d'Afrique devraient vraiment en tirer des conclusions. Et la deuxième chose essentielle, c'est la disposition des traitements pour traiter cette maladie chronique à disposition des patients, complètement remboursés. Et elle a tout compris, notre ministre de la Santé, c'est important justement de permettre aux gens de pouvoir avoir le remboursement total et de ne pas dépenser pour des traitements. Donc je pense que ce serait important déjà, si on, dans les pays d'Afrique, il pouvait y avoir ces traitements à disposition, à un prix extrêmement intéressant en tout cas, et voire remboursé, ce serait encore l'idéal, et que les cigarettes, les prix augmentent suffisamment pour que les gens n'aient plus envie d'y aller très facilement.
Parce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est moins cher de fumer que d'arrêter de fumer.
Dans certains pays d'Afrique, oui, c'est voilà. Ça le problème. Et chez nous, on a tout compris, c'est plus le cas, heureusement.
Arrêter de fumer, alors épreuve encore plus complexe, justement, lorsqu'on est privé de dispositifs d'aide, dans un contexte aussi où la législation peut être plutôt favorable aux cigarettiers. Illustration, tout de suite, on va partir pour le Niger.
Priorité santé sur RFI.
Niamey, où on vous retrouve, Inoussa Saoussa, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de SOS Tabagisme Niger. Alors, où en est le Niger sur le plan de la législation anti-tabac ? Il y a une loi, je crois, depuis 2006. Et vous faites partie des personnalités, Inoussa Saoussa, qui souhaiteraient voir cette loi changer. Pourquoi ?
Oui, merci beaucoup. Le Niger, sur le plan législatif,
Et vraiment, les pays de la sous-région ouest africaine a adopté une loi depuis 2006 en application donc de la Convention cadre internationale de l'OMS. Et cette loi, à l'époque, s'inspirait donc des dispositions de cette convention et avait interdit la publicité, qui a bien marché. On a l'interdiction totale de la publicité du tabac. Mmh. En tout cas, un des premiers pays en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, à pouvoir l'interdire. Mais accompagné d'autres mesures encore, mais malheureusement, qui n'ont pas été suivies d'application.
Et vous, souhaitiez des changements? Il y avait un projet même d'amendement le mois dernier, le 25 octobre précisément. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Oui, effectivement. Donc, nous avons mené un plaidoyer auprès des parlementaires afin que cette loi qui date de 12 ans, qui est complètement obsolète aujourd'hui, qui ne réponde pas aux orientations actuelles de la lutte anti-tabac au niveau international, j'ai bien suivi ce qui se passe en France. Alors donc, il y a une députée qui a déposé une proposition de loi qui devrait être discutée le 25 octobre dernier. Malheureusement, ça a été retiré du calendrier. En tout cas, selon les dernières informations que nous avons, c'est pour respecter une procédure réglementaire qui n'a pas été respectée dans ce processus-là. Nous osons espérer que bientôt, ça va pouvoir être réinscrit pour qu'elle soit examinée et éventuellement adoptée comme on l'espère.
Qu'est-ce qu'il y avait comme changement dans cet amendement? Par exemple, des mesures sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics? Qu'est-ce qu'il y avait précisément?
Oui, d'abord, la plus grande chose, c'est que cette proposition prend en compte les directives de la Convention cadre qui n'était pas prise en compte par la loi de 2006 parce qu'elle n'existait pas.
Précisément.
Mais ensuite, d'autres innovations, il y a d'autres produits qui ont fait leur apparition dans notre société, comme la chicha, qui n'est pas prise en compte dans cette loi. Mais il y a également des mesures aujourd'hui, on vient de voir en France, qui sont devenues les clés pour pouvoir contrer le tabagisme dans nos pays, c'est l'augmentation substantielle des prix. Et le pays, exemple pour nous aujourd'hui, c'est la France, où on a constaté une grande diminution, parce que c'est devenu, de manière substantielle, il y a une augmentation. Dans un pays pauvre comme le Niger, augmenter d'abord les prix, ça permettra d'abord à l'État d'avoir des revenus, des taxes, mais ça permettra surtout de limiter l'accès aux pauvres et aux jeunes. Et donc, c'est la grande majorité d'ailleurs qui s'adonne à la consommation du tabac.
Encore faut-il que les cigarettes passent par le circuit régulier?
Oui, c'est une question, mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, que la contrebande est organisée par l'industrie du tabac.
Donc,
et que même aujourd'hui qu'il n'y a pas cette augmentation de prix, au niveau étatique, il y a un effet pour contrer la contrebande.
Est-ce que vous jugez aujourd'hui que c'est un petit peu justement ces cigarettiers qui font la loi dans votre Niger et non pas les autorités locales?
Non, en fait, pour moi, ce n'est pas les industriels qui font la loi. C'est qu'il y a un niveau de méconnaissance de nos autorités politiques des effets négatifs du tabac sur la santé des populations, mais également sur l'économie.
C'est pour ça qu'on doit les inciter à écouter ce type d'émission avec des spécialistes, des médecins qui peuvent justement parler de toutes les maladies et aussi de l'impact même, on va dire, pour le développement de ces pays, parce que ça coûte cher, parce que ça prive des familles de chefs de famille qui ne peuvent plus aller travailler et qui ne peuvent plus s'occuper de tout le foyer. Et tout ça, c'est un impact économique très important. C'est ce que vous soulignez aussi, Inoussa Saoussa. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la chicha. Est-ce que c'est un phénomène en pleine expansion au Niger?
Absolument, absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment un fléau. Pas plus tard, il y a deux jours, le maire de la ville de Niamey a initié une opération coup de poing pour aller arracher sur les lieux publics les objets d'utilisation de la chicha. Pour nous, c'est une bonne chose, mais pour moi, c'est un effet purement médiatique. Le fond de la question, il faut légiférer sur la chicha. Et la proposition de loi actuellement devant les parlementaires, il stipule l'interdiction de son importation, de sa commercialisation et sa consommation, y compris donc ses accessoires, c'est-à-dire les instruments qu'on met en place pour pouvoir l'utiliser. Il faut aller plus dans le fond que de rester dans des coups médiatiques, parce que le large place où on utilise la chicha, ce n'est pas à la place publique, ce sont dans les foyers, ce sont dans les villages, dans les quartiers, et à des cérémonies à laquelle la commune n'a pas accès.
Docteur, on va donner juste sur ce point, hein, je vais vous redonner la parole pour votre conclusion, la parole au docteur Marion Adler qui veut s'exprimer précisément sur le narguilé, la chicha, c'est vraiment très nocif. Hein.
Absolument, il a tout à fait raison, Inoussa, de parler de ça, parce que c'est le même tabac et c'est la même combustion, c'est-à-dire c'est du tabac qui est brûlé. Quand on aspire sur une chicha, on aspire entre 15 et 20 cigarettes en même temps, c'est quand même dramatique.
C'est phénoménal.
C'est la même toxicité et en plus, il y a le phénomène que l'on se passe des uns aux autres cet embout de chicha et on transmet en plus des virus extrêmement toxiques qui peuvent donner des maladies comme des hépatites et des choses comme ça.
Donc j'ai une question, important. Ça veut dire ce que vous nous dites, c'est que on fume une chicha entre amis, on a ingurgité l'équivalent d'un paquet de cigarettes.
On peut avoir exactement avoir ingurgité parce qu'on augmente le volume d'aspiration. La chicha, le principe, c'est du tabac qui brûle et qui passe dans un liquide qui a un goût aromatisé. Donc, ça attire en plus les jeunes, aromatisé à vanille, etc. Mais ça n'est pas l'eau, le liquide ne filtre rien, ne filtre pas la fumée. Et donc, la fumée ressort de la même manière, est aussi toxique, aussi cancérigène. C'est important dans ces pays-là qu'ils augmentent le prix du tabac. Il a tout à fait raison, et qu'ils augmentent les aides d'arrêt du tabac. Et je vous encourage à vous rapprocher de cette unité de soins de sevrage tabagique du Burkina Faso, de l'hôpital Léal Gado.
À titre d'exemple, pour essayer de reproduire ce modèle. Inoussa Saoussa, il nous reste très peu de temps. Juste votre message de conclusion. Peut-être que vous avez un message particulier à faire passer.
Oui, avant d'abord, je voulais noter qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest en général est ciblée par l'industrie. Cela vient d'être notifié dans un communiqué de presse de l'Observatoire du tabac en Afrique francophone, où ils organisent des ateliers avec le gouvernement. Ce qui est une violation flagrante de la convention cadre de l'OMS à son article 5.3. Mais en conclusion, je pense que nous, notre plaidoyer aujourd'hui, nous lançons un appel à nos autorités à comprendre la démarche que nous soutenons est une démarche de santé publique.
Voilà, votre esprit, c'est d'abord de vous occuper de la population, en particulier de cette jeunesse du Niger qui est tentée par les cigarettiers. On l'a bien compris, les lobbies de la cigarette. Merci beaucoup, Inoussa Saoussa. Je rappelle que vous êtes le président de SOS Tabagisme Niger.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Et on arrive à la conclusion. Justement, docteur Marion Adler, je vais vous laisser le mot de la fin sur une cible particulière aujourd'hui dans ce que vous voyez en consultation, les personnes qui viennent vous voir, est-ce que vous sentez, je vais encore parler de la jeunesse, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération pourrait changer la donne ?
Bien sûr, parce qu'ils peuvent avoir d'autres images et puis ils peuvent être aussi aidés de la même manière. Les femmes enceintes aussi peuvent être aidées, peuvent prendre des substituts nicotiniques très importants. Toutes ces populations peuvent avoir un soutien et bravo au travail de Inoussa aussi, je trouve que c'est exemplaire.
Voilà, notre échange touche à sa fin. Désolée de cette conclusion un petit peu rapide, docteur Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair. Désolée de ne pas avoir donné davantage la parole à vous, Viet Nguyen Tan. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité d'addiction à santé publique France. On parle d'activité physique tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors vous nous conseillez de faire du sport à chacun de nos rendez-vous, de l'activité physique. Mais quand on a fini une séance de sport, on dit qu'il faut bien récupérer. Docteur Sen, c'est quoi la récupération ?
Eh bien la récupération, c'est finalement lorsque l'ensemble des systèmes de l'organisme qui ont été sollicités pendant l'effort, eh bien vont se restructurer. Alors c'est vrai que plus on va faire un effort qui est intensif, plus il y aura des atteintes justement de ces systèmes. Alors évidemment, on pense toujours aux articulations, aux muscles, aux tendons qui doivent se régénérer, et c'est tout à fait juste, hein, il faut véritablement faire cela. Mais il y a aussi le métabolisme qu'il va falloir reconstituer. Des réserves, notamment des réserves hydriques, des réserves en glucides, il va falloir reconstituer tout ça. Et souvent, cette récupération est négligée. C'est-à-dire qu'après l'effort, les gens considèrent qu'ils vont récupérer d'eux-mêmes. Alors que si on optimise tout ça, eh bien, évidemment, avec des conseils simples, on peut vraiment améliorer cette récupération.
Alors d'abord, l'hydratation. On dit souvent que l'eau, hein, c'est la seule boisson indispensable, utile aux sportifs, docteur Sen. Alors, il faut boire en quelle quantité et quelle boisson choisir?
Alors ça, c'est tout à fait vrai. L'eau, c'est la seule vraie boisson qui est indispensable. L'autre chose, c'est qu'il faut juste se méfier de la soif. Parce que quelquefois, il faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que souvent c'est trop tard, on est déjà déshydraté. Et puis quand on reconstitue, le fait de ne plus avoir soif ne veut pas dire non plus qu'on a totalement reconstitué ses réserves hydriques. Alors, pour pouvoir mesurer ça, si on veut vraiment être très précis, il faudrait se peser avant et après, plutôt en petite tenue, parce qu'évidemment, il y a de l'eau contenue dans la sueur des vêtements, pour pouvoir savoir combien de boissons on doit récupérer. Alors, oh, il y a une boisson que j'aime bien, évidemment.
Attention, la potion magique du Dr Sen. C'est parti.
Il y a une boisson formidable, c'est d'apprendre à moitié pour volume, moitié de volume, un jus de fruit. Voilà, on prend le jus de fruit qu'on aime bien. Hein. Si on aime bien le jus d'orange, si on aime bien le jus de raisin, ça c'est parfait. Et puis on va prendre l'autre moitié, donc la deuxième portion, on va prendre une eau pétillante qui est riche en bicarbonate. Et puis on peut rajouter avec tout cela juste une pincée de sel. Vous savez, ces petits sachets-là qu'on retrouve dans les restaurants collectifs, eh ben, c'est le quart ou la moitié de ce sachet, donc c'est vraiment
une grosse pincée
de sel, voilà, tout simplement. On va secouer tout ça pour enlever le gaz, hein, qui est contenu quand même, et puis on a une boisson qui est absolument parfaite, parce que, évidemment, il y a de l'eau, il y a des glucides, il y a des bicarbonates, comme on a dit, il y a des sels minéraux, il y a des oligo-éliminants, enfin bref, c'est une boisson qui est tout à fait idéale, pas chère, facile à constituer. L'objectif, c'est de recharger ses réserves, donc de boire tout de suite après l'effort et d'essayer de faire ça dans l'heure qui suit l'effort, de boire voilà en fonction 3/4 de litre, 1 litre, comme ça après l'effort et puis après si besoin dans la journée.
Alors les besoins essentiels, on a bu, maintenant on imagine qu'il faut bien dormir aussi.
Ah, la qualité du sommeil, c'est essentiel. Alors c'est la nuit finalement qu'on reconstitue tous nos muscles. Alors ça c'est grâce à des hormones, par exemple l'hormone de croissance, la testostérone. L'hormone de croissance, elle est sécrétée quand on dort. Alors si on dort bien, eh bien on va sécréter plus d'hormones de croissance que si on dort pas bien. Alors, il y a des conseils simples pour essayer de s'endormir, c'est que la température déjà du corps doit pas être trop élevée, doit s'abaisser. Donc, faut pas hésiter à prendre une douche un petit peu tiède juste avant d'aller dormir. La température de la chambre doit être relativement basse. Hein. Alors, on conseille 17 degrés. Alors, quelquefois, c'est un peu frais.
Surtout pour nos auditeurs.
Africains, absolument. Mais en tout cas, il faut essayer d'avoir quand même quelques degrés, bien sûr, plus bas que la température de la journée. Et puis, il faut pas hésiter à relaxer ses jambes et à aider le retour veineux aussi. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on se met? On se met à l'équerre contre un mur, les jambes contre le mur. Hein. Voilà, hop, on ballotte un petit peu ses muscles, ça fait retour veineux, puis on les met allongés sur le lit, puis on refait comme ça pendant 15 minutes des allers-retours de 20-30 secondes. Et tout ça, ça se passe très bien pour le retour veineux. Et faut pas hésiter aussi, pendant la nuit, à avoir pourquoi pas une petite bouteille d'eau. Comme ça, quand il y a des petits réveils, eh ben, on en profite pour se réhydrater un tout petit peu.
Alors, après l'effort, Dr Sen, le réconfort et aussi la relaxation.
Eh oui, la relaxation, ça fait partie. La récupération psychologique, c'est aussi important. Alors, juste après l'effort, faut pas hésiter à prendre, après l'entraînement, 5-10 minutes, relax. Pourquoi pas plaisanter avec ses partenaires, c'est très sympa. Et puis, quelquefois, il y a des petites séances comme ça où on peut rester allongé sur le dos, bien respirer, inspirer à fond, expirer à fond, et puis relâcher ses muscles. Comme ça, on a une récupération qui est absolument optimum. Faut pas hésiter à balloter ses muscles, ses bras, ses jambes. Vous savez, un peu comme les sprinteurs, là, quand ils vont commencer un petit peu à courir, ça, c'est absolument bien. Et puis, faire des petits étirements. Alors, très léger, très doux, hein. Faut pas tirer très fort, mais très légèrement. Ça aussi, ça va aider un petit peu à relâcher les muscles, à avoir moins mal le lendemain. Voilà. Donc, bon, bah, j'espère vraiment que grâce à tous ces conseils, nos auditeurs vont pouvoir récupérer au mieux de leur séance de sport.
Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France du judo. À bientôt dans Priorité Santé. Et un mot encore sur ce mois sans tabac. C'est important de le souligner pour s'aider à décrocher, pour celles et ceux qui attendent des conseils, du soutien. Le site Tabac Info Service sur Facebook, sur Internet, l'application existe même. C'est gratuit, bien sûr, et c'est accessible du monde entier. On rappelle le nom magique pour arrêter de fumer. Tabac Info Service. Demain dans Priorité Santé, on retrouve le docteur Catherine Solano. Émission spéciale sexualité avec comme thème pour vos questions, vos témoignages. Comment parler de sexualité aux enfants? Quelle éducation sexuelle? Le numéro de l'émission 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.